monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
68 étudiantes indiennes ont été forcées de se déshabiller dans une université hindoue afin de vérifier si elles avaient leurs règles. Le règlement intérieur les obligeant à se mettre à l'écart pendant leur menstruation. Les faits se sont produits le 10 février au Sajanand Girls Institute de Bhuj dans le Gujarat, tenu par la secte Swaminarayan. Les jeunes femmes sont interdites de résidence étudiante en période menstruelle et sont obligées de s'isoler dans un sous-sol, de rester à l'écart de la cuisine et du lieu de culte. Elles doivent également s'asseoir au fond de la classe durant les cours. Les responsables de l'université ont ainsi aligné 68 étudiantes dans les toilettes et leur ont ordonné une à une de se déshabiller. Plusieurs étudiantes ont manifesté le 13 février devant l'établissement. Au Forum mondial des femmes à Dubaï, Theresa May a encouragé les femmes à rester elles-mêmes en politique. L'ex-première ministre britannique a raconté qu'à son arrivée au Parlement en 1997, elle avait refusé de se conformer aux traditions masculines qui y régnaient. « J'ai fait de la politique différemment des hommes. Quand je suis arrivée à la Chambre des communes, on donnait beaucoup d'importance aux hommes qui buvaient ensemble, formaient des groupes », a-t-elle expliqué, disant que certaines femmes se sentaient obligées de les rejoindre, mais pas elles. Ex-ministre des Femmes et des Égalités, deuxième femme à la tête du parti conservateur et fondatrice du groupe de pression Women to Win, Madame May souligne continuer de travailler en tant que députée, notamment sur les violences conjugales et l'esclavage contemporain.
Parole de femme.
Fatou Warka fait figure de pionnière sur la scène des réseaux sociaux au Sénégal. Son objectif, changer les attitudes, les lois, les mentalités. Sa plateforme, Warka TV, une chaîne de télévision en ligne qui émet depuis Pékin dans la banlieue de Dakar. Son combat quotidien, influencer le public et briser le silence sur la violence faite aux filles et aux femmes dans son pays. Blanche Sanou nous en dit plus.
Après, j'ai la douche du bureau.
Tout a commencé avec la diffusion de 16 voix, 16 femmes, 16 victimes, une vidéo de campagne visant à mettre fin à la violence contre les femmes et à renforcer la loi sur le viol au Sénégal, publiée sur Warka TV, YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur une télévision sénégalaise indépendante. La vidéo a rencontré un succès énorme auprès du public.
L'essentiel pour nous, c'était de toucher le maximum de gens, et pour nous, c'est toujours bénéfique de voir que les gens le reprennent, et voilà, ça ne nous fait pas de... Ça ne nous cause pas de soucis. Parce que c'est ça l'objectif, en fait. Tout, c'est le maximum de personnes. Montrer qu'il y a bel et bien ces violences et ça se passe au Sénégal.
Depuis 2005, Fatou s'est lancé dans le combat après avoir réalisé que la voix des femmes n'était pas assez forte et que peu de choses changeaient autour d'elle. Elle a décidé d'apprendre à filmer et de lancer sa chaîne de télé en ligne, Warka TV.
On a des retours positifs des gens qui disent que oui, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui que j'ai fait ça. Auparavant, je ne pensais pas que ni par exemple... Quand une personne me fait des appréciations indécentes, que c'était un harcèlement.
Pendant des générations, les femmes sénégalaises ont gardé le silence sur la violence dont elles étaient victimes. Il y a une culture de la soutoura qui signifie discrétion en wolof, de la masla pour le compromis et de la moui pour la durabilité.
Donc ce qui fait que la femme n'a pas toujours tendance à le dire, à dénoncer, parce que c'est normal, on te dira que occupe, c'est ça, le mariage c'est comme ça, il faut supporter, il faut endurer, c'est difficile, si tu veux avoir de bons enfants, il faut carrément supporter tout ça.
La fondatrice de Warka TV et une poignée de femmes se sont battues pour faire changer la loi sénégalaise sur le viol et elles ont gagné cette bataille. Mais aujourd'hui, une autre commence, selon elles, celle de s'assurer que la loi est appliquée et qu'un soutien aux victimes est mis en place.
Le Bikutsi, chant originellement pratiqué par les femmes du centre et du sud du Cameroun, occupe depuis 3 décennies le devant de la scène musicale dans le pays. Caractérisé par des textes crus qui abordent les relations amoureuses et la sexualité, des métaphores chantées par des voix puissantes et de nombreux déhanchés, le Bikutsi fait désormais partie intégrante des soirées camerounaises. Un récit de Dilédico.
Il est 1h du matin au Québec, un cabaret de Yaoundé où les percussions résonnent à un rythme effréné. Sur la scène, les chanteuses de Bikutsi ondulent des hanches éclairées par les projecteurs.
Là, ce côté un peu gnagna, froufrou, voilà, c'est ça. Ce côté un peu séduction aussi, ça fait partie du Bikutsi, surtout sur des scènes. Et c'est propre au Cameroun, c'est propre aux Camerounais, c'est propre au spectacle Bikutsi Cameroun.
Le Bikutsi est né à l'époque précoloniale dans les régions des ethnies Fang, Boulou et Béti, dans le centre et le sud du Cameroun, où les femmes se retrouvaient entre elles après une dure journée de travail pour chanter et danser leur joie, leur peine et leur frustration. Certaines exprimaient la douleur de vivre aux côtés d'un mari violent et d'autres livraient aux plus jeunes les secrets d'un mariage réussi.
C'est un peu le populaire. Au Cameroun, la population aime ça, la population aime un peu ce côté pervers. C'est ça qui attire l'attention. Donc c'est juste pour attirer l'attention et pour amuser la galerie. Mais sinon, derrière tout ça, il y a toujours un message à véhiculer, toujours.
Le Bikutsi est donc porteur de messages. Il est aussi un exutoire dans les sociétés patriarcales, où il était interdit aux villageoises qui l'ont inventé d'élever la voix en public. Aujourd'hui, dans la salle, des femmes de tout âge se lèvent et dansent.
Le Bikutsi est hyper érotique, le Bikutsi est sensuel. Le Bikutsi exprime ce qui est basique. Bikutsi, le sol, la terre, l'essence. Et en fin de journée, en fin de tout ce qu'on fait, il y a ce qui est essentiel à l'homme, à l'être humain, c'est ce rapprochement entre l'homme et la femme.
Cette liberté de ton scandalisait à l'époque une partie de l'opinion. Mais de nos jours, ces chansons aux paroles explicites suscitent un tel engouement qu'elles passent en boucle lors des fêtes de famille.
Au Bangladesh, où les prostituées vivent au banc de la société jusqu'à la mort, l'une d'entre elles a reçu des funérailles religieuses, une première dans le pays. Décédée à 65 ans, Hamida Begum a été victime de la prostitution étant enfant dès l'âge de 12 ans. Alors que sa famille comptait l'enterrer en catimini dans une tombe anonyme, une coalition de prostituées a persuadé les responsables religieux de lui donner de vraies funérailles. 200 personnes étaient présentes aux obsèques et 400 ont participé aux festins et prières. Autrefois, lorsqu'une prostituée de Doladia mourait, son corps était jeté dans le fleuve Padma ou enseveli dans la tourbe. Depuis les années 2000, elles sont enterrées la nuit dans des tombes anonymes sur un terrain vague. Les autorités locales affirment que dorénavant, les funérailles religieuses de prostituées se poursuivront afin de réduire la discrimination dont elles sont victimes.
Si jeunesse pouvait.
À Ouagadougou, il est courant de voir des débits de boissons ou autres commerces qui jouxtent les établissements scolaires. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la quiétude des élèves. Les parents demandent ainsi à la municipalité de mettre de l'ordre aux abords des lycées et collèges, rapporte notre correspondant au Burkina Faso, Kader Traoré.
Ouagadougou, il est 10h. nous faisons la ronde des arrondissements 3, 10 et 11 de la capitale burkinabé. C'est l'heure où les élèves prennent leur pause. C'est également l'heure où les débits de boissons ouvrent leurs portes avec toute l'animation musicale qui va souvent avec. Quant aux autres établissements commerciaux, ils ont soulevé les grilles depuis quelque temps. Le hic, c'est que certains jouxtent les écoles et autres lieux d'éducation des enfants sans que cela ne dérange leurs tenanciers. Or, cette proximité peut avoir de lourdes conséquences sur le comportement et le cursus scolaire des élèves. Hector Raphaël Ouedraogo est le président de l'Union nationale de l'Association des parents d'élèves du Burkina.
Nous ne sommes pas contents en ce sens que ce que nous avons vu laisse vraiment à désirer. Nous avons visité 3 établissements et nous avons vu qu'autour donc de tous ces établissements, il y a des installations de petits commerces. Vous savez que ces installations nuisent à l'éducation donc de nos apprenants, de nos enfants. Et nous souhaiterions à partir donc de maintenant travailler à assainir ce milieu scolaire pour plus de quiétude et de paix.
Ces établissements anarchiques, pour la plupart, n'ont pas reçu d'agrément d'implantation. Elles évoluent dans l'irrégularité.
Ce que nous déplorons, c'est qu'effectivement, il y a quelques installations, j'allais dire un peu anarchiques, parce que très souvent, ce sont des installations qui ne sont pas autorisées.
Martin Kabore, proviseur du lycée municipal de Bogodogo.
Par rapport à cette situation, nous pouvons dire que, comparativement à certains autres établissements, chez nous, ce n'est pas encore assez criant, mais il y a quand même quelques installations. Il y a par exemple un débit de boisson où il y a de l'alcool qui est vendu. Donc, il y a aussi des kiosques qui sont installés où on vend de la nourriture dont les conditions d'hygiène ne sont pas maîtrisées. Probablement même qu'il y a d'autres produits, peut-être illicites, qui peuvent être vendus là-bas que nous ne maîtrisons pas.
Les détenteurs de ces commerces sont conscients que la situation géographique de leur boutique dérange le bon déroulement de l'activité scolaire. Ils sont d'ailleurs prêts à changer d'emplacement à condition que la municipalité leur trouve de nouveaux sites. Ablassé Sana, gérant d'une quincaillerie à proximité du lycée Rim Vougré.
C'est vrai que le maire nous a dit de changer de place. Mais si nous quittons les lieux, quelle autre place vont-ils nous donner? C'est grâce à cette activité que nous parvenions à entretenir nos familles et à scolariser nos enfants. Si nous ne travaillons pas, qui va s'occuper de nos enfants? L'administration va-t-il accepter de les scolariser gratuitement? Que vont-ils manger? Où allons-nous partir dans cette situation d'insécurité dans le pays? C'est difficile. Si c'est sûr qu'on va nous donner de nouvelles places, nous sommes partants.
Soucieux de l'avenir des enfants dans la capitale burkinabé, l'Union nationale de l'Association des parents d'élèves du Burkina dit avoir demandé incessamment aux autorités communales de prendre des mesures urgentes pour débarrasser les alentours des établissements des installations anarchiques. Elle souhaite également que prennent fin les commerces des produits tels que la cigarette et les boissons alcoolisées dans le sillage des écoles. Kader Traoré, Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Les Africains sont de plus en plus nombreux à faire le choix de rentrer sur leur continent d'origine après une longue période passée en Occident. On les appelle les repates, un néologisme construit sur le modèle du mot expat, désignant donc ceux qui reviennent vivre en Afrique après avoir travaillé ou étudié à l'étranger. À Dakar, la capitale sénégalaise, Alison et Alexis Lekogo sont allés à la rencontre de certains de ces repates, dont une femme ayant créé une plateforme pour la formation des métiers de l'enfance.
Après plus de 20 ans passés en France, Fadialo a décidé de rentrer vivre dans son pays d'origine, le Sénégal, en 2016. Une année plus tard, elle crée l'Institut académique des bébés, une structure dédiée à la formation professionnelle des métiers de l'enfance. Aujourd'hui, les apprentis nounous découvrent comment cuisiner des purées plats pour bébés à base d'aliments bio.
J'ai voulu répondre à 2 problématiques ici en créant l'IAB. La première, c'est une bonne prise en charge des tout-petits, qui est complètement défaillante dans notre pays malheureusement. En plus, beaucoup de femmes aujourd'hui sont au chômage faute de formation adéquate pour pouvoir travailler.
Contribuer à l'essor du continent, c'est aussi l'une des raisons qui ont poussé Djibril Fall à revenir s'installer en Afrique après plus de 2 décennies passées en Europe, principalement en Suisse. Il est le fondateur d'une ONG spécialisée dans la protection des enfants migrants.
Participer à l'Afrique, c'est une sorte de retour tout simplement d'investissement. Enfin, l'Afrique a investi sur moi, hein, énormément. Et le Sénégal sûrement aussi. Mais cette ressource-là que je suis devenu, quel que soit son niveau, devrait pouvoir après donner quelque chose à cette Afrique-là.
Chaque mois, plusieurs dizaines de repates se réunissent lors d'un after-work. Awali en est l'initiatrice. Rentrée au Sénégal il y a 3 ans et demi, elle a fondé un club destiné à favoriser la réinsertion de ces Africains qui ont longtemps vécu à l'étranger.
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un espace d'échange pour les gens comme moi qui venaient ou revenaient des États-Unis ou d'Europe, venir ici concrètement réaliser, ou en tout cas essayer de réaliser l'Afrique de leur rêve de près, enfin sur place, hein, plutôt que de la rêver passivement de loin. Et donc, je l'ai créé. Hein, j'ai mis la main à la poche, j'ai retroussé les manches et j'ai lancé ce club.
Difficile de mesurer l'ampleur de ce retour des cerveaux. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ne dispose pas encore de chiffres, mais reconnaît le phénomène et l'encourage même à travers différents programmes.
Mais oui, et c'est la jeunesse prouvée.
L'actrice américaine Rose McGowan a fustigé la comédie féministe jouée, selon elle, par Nathalie Portman lors de la cérémonie des Oscars le 9 février. Sur le tapis rouge, Madame Portman portait une cape noire sur laquelle étaient inscrits les noms de réalisatrices qu'elle estimait injustement écartées de la sélection 2020, où aucune femme ne figurait, comme Lorraine Scafaria, Lulu Wang, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas et Céline Sciamma. Sur Facebook, Rose McGowan reproche à sa collègue d'avoir travaillé avec seulement 2 réalisatrices, dont elle-même. Elle exhorte ensuite les actrices de l'élite à changer le monde au lieu de faire semblant d'être du côté des autres femmes, selon elle. Reconnaissant ne pas avoir travaillé avec autant de réalisatrices qu'elle aurait voulu, Portman a déclaré avoir aidé des réalisatrices sur des projets qu'elles ont ensuite été forcées d'abandonner en raison des conditions de travail qu'elles subissaient. « Je veux dire que j'ai essayé et que je continuerai », a-t-elle conclu en réponse à McGowan.
Entre parenthèses.
Le Programme alimentaire mondial met en garde contre une crise humanitaire grandissante dans la région du Sahel qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans un rapport publié sur son site internet, l'organisation onusienne dénonce les violents affrontements entre groupes armés, les déplacements de la population, la faim et la pauvreté généralisée. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Dans la région du Sahel, le Burkina Faso est l'épicentre de cette crise dramatique. Il ressort du rapport de l'ONU qu'au moins 486 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, ce qui porte à 860 000 le nombre total de personnes déplacées dans les 3 pays sahéliens.
Au moment où nous parlons, des millions de personnes souffrent désespérément de la faim dans le Sahel. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Des milliers de personnes sont tuées en raison de l'extrémisme et de la violence. Rien qu'au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées a augmenté de 500% et un tiers de la nation est désormais une zone de conflit. C'est une catastrophe. Nous devons agir et nous devons agir maintenant.
Cette détérioration de la situation humanitaire au Burkina Faso est liée en grande partie à la forte augmentation de la violence où le nombre d'attaques dans la première moitié de 2019 a dépassé le total de 2018 avec 4 fois plus de victimes civiles que le total enregistré en 2018, rappelle l'ONU.
Le monde ne comprend pas toute l'ampleur de la crise humanitaire grandissante dans la région centrale du Sahel, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui est alimenté par de violents affrontements entre groupes armés, les déplacements de population, la faim et la pauvreté. Agissez maintenant pour lutter contre la faim au Sahel où toute une génération est menacée.
Le conflit au Sahel dévaste l'agriculture et les économies rurales et près d'un enfant sur 3 n'est pas scolarisé dans de nombreuses zones touchées par le conflit, note l'agence onusienne. Cette année, 2,4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le Sahel central, un chiffre qui pourrait augmenter.
Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la nourriture. Tout le reste peut attendre. Une fois que nous aurons de la nourriture, nous nous préoccuperons des vêtements.
En attendant, les Nations Unies ont intensifié leurs actions en fournissant une aide alimentaire à plus de 2,6 millions de personnes dans les trois pays du Sahel, concentrant leurs efforts sur les zones où les besoins humanitaires sont les plus importants et où des déplacements massifs de la population ont eu lieu.
En Ouganda, les efforts consentis pour insuffler une vie à l'industrie locale du textile et de la mode sont confrontés à diverses difficultés, dont le florissant marché des vêtements d'occasion. Ce commerce de seconde main permet de répondre à la demande de la population qui n'a pas toujours les moyens de payer des habits neufs de bonne qualité. Arzuma Compaoré.
Chaque dimanche, à un carrefour de Kampala, les commerçants se retrouvent pour vendre leurs marchandises. Rejetés par les magasins de charité ou les friperies de l'Occident, les vêtements de seconde main sont populaires parmi les Ougandais. Ils sont également une source de revenus importante pour un segment de la population. Rose Natabi vend des vêtements usagés depuis plus de 5 ans.
Les vêtements vendus dans les magasins ici ne durent pas longtemps. Le tissu se déchire facilement après lavage. Ces vêtements de seconde main, eux, sont durables. Ils ont déjà été utilisés, mais ils sont meilleurs que ceux fabriqués ici en Ouganda. Ceux d'ici sont de mauvaise qualité. On les lave une fois et ils sont déchirés. Les enfants les portent pendant 2 mois et c'est tout.
Ce n'est pas seulement en Ouganda. Le commerce de vêtements de seconde main est courant sur tout le continent, le Ghana, la Tanzanie, le Bénin et le Kenya étant parmi les plus gros marchés. Toutefois, bien que cela puisse apporter une solution pratique au chômage, les critiques soutiennent que le commerce de vêtements usés empêche l'Afrique de se doter d'une industrie. La créatrice de mode, Victoria Mera Bakini, souhaite que ce commerce soit interdit.
Cela aiderait d'une manière ou d'une autre, car parfois, des choses sont importées dans le pays. Mais ce sont des choses que nous pouvons faire en tant que créateurs vivant dans le pays.
Ce n'est pas si facile. En 2016, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda ont tous augmenté les taxes sur les vêtements et les chaussures usagées. Mais en 2017, un groupe de commerce représentant les exportateurs de vêtements usagés américains a déposé une pétition contre cette mesure. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont fait marche arrière et accepté de réduire le montant des taxes. Le Rwanda, qui a refusé, a vu son exemption des droits de douane sur les vêtements exportés vers les États-Unis suspendue.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.lmf pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.